Je vous accueille ce matin avec un sentiment de reconnaissance, pas seulement parce qu'il a fallu braver un peu des routes difficiles et comme chacun d'entre vous, vous êtes content d'être arrivé à destination, mais à cause de Jésus-Christ qui nous invite aussi, mais aussi à cause de chacun d'entre vous. Oui, j'ai de la reconnaissance parce que vous êtes là. Et cette semaine, nous les aînés, nous avons vécu un temps privilégié. Nous étions invités pour partager un repas et passer l'après-midi ensemble. Et là, j'ai réalisé la bienveillance de Dieu envers notre communauté. Dieu a qualifié des sœurs, des frères pour vraiment préparer avec compétence le repas, l'animation. Et j'ai trouvé que nous avons pu vivre, grâce à chacun, un temps merveilleux. Et ce matin aussi, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir parce que ensemble, nous allons vivre un temps aussi béni. Et merci à tous ceux qui ont préparé ce temps de culte, la louange, ceux qui sont aussi à la technique, ceux qui décorent aussi le lieu, qui ont préparé pour notre venue. Oui, merci à tous. Et aussi merci à Dieu qui nous a donné des pasteurs aussi compétents. Il les a placés parmi nous et je trouve merveilleux les compétences et vraiment les dons que Dieu leur a donnés aussi. Et je bénis Dieu pour tout cela. Nous allons invoquer notre Dieu. Oui, Seigneur, aide-nous à entrer dans ce temps privilégié de communion avec toi, aussi avec nos sœurs, nos frères, avec lesquels nous formons le corps de Christ dans ce monde. Que ton esprit nous remplisse et nous rende capables de te plaire et de te rendre gloire. Tu nous permets de déposer nos soucis, nos fardeaux, nos peines, et à nouveau placer notre confiance en toi, car tu prends soin de nous. Sois loué et adoré Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cet après-midi-là aussi, que nous avons vécu, eh bien, Sylvie a eu la gentillesse de prendre du temps et préparer des cartes pour chacune des personnes présentes avec un verset biblique différent. Je reprendrai le verset que j'ai reçu et qui m'a été utile et m'a inspiré pour préparer ce culte. C'est un verset dans le psaume 25, le verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel. Oui, ce texte nous dit que Dieu fait alliance avec nous. Et c'est formidable. Et bien sûr, une alliance n'est jamais faite d'une seule partie, mais c'est deux parties. Et je pense que c'est un peu le thème de ce culte, c'est que nous formons aussi une partie de cette alliance et Dieu l'autre partie. Et je continuerai encore quelques versets dans ce texte. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Oui, Seigneur, c'est avec cette confiance que tu es avec nous que nous pouvons vivre ce temps de culte. Je me donnerai la parole maintenant pour un temps de louange.
Bonjour, je vous invite à vous lever. Le Seigneur est là, présent. En fait, c'est lui qui nous invite ce matin. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et que ce matin, on puisse vivre cette invitation, venir à ses pieds, venir au pied de son trône. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes pavés, avec tes louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Seigneur, merci pour ce privilège de pouvoir nous tenir devant toi ce matin. Je te demande une onction particulière sur ceux qui sont à la maison, retenus par soit la météo, mais peut-être la maladie, par le chagrin. Seigneur, nous les portons devant toi ce matin et qu'ils puissent eux aussi, dans leur cœur, entrer dans tes parvis. Amen. dans la ligne du thème d'aujourd'hui. Je ne résiste pas de vous lire. Le thème, c'est l'attente, c'est juste.
C'est l'avant,
c'est l'attente. Je ne résiste pas de vous lire un court passage, une courte pensée d'un auteur que je découvre, Marion Muller-Collard, sur l'attente. Attendre, c'est mener un bras de fer entre le doute et l'espérance. C'est l'espace laissé à la divagation. C'est tout envisager jusqu'à l'inimaginable. Attendre Noël, c'est attendre un enfant qui rouvre en nous les voies de vieux rêves enfouis. Un enfant qui saisit d'une main majestueuse nos mentons abaissés et lave d'un regard nos dignités souillées. Attendre Noël et le voir à sa porte, c'est être pris par un sourire immense et par l'élan de l'accolade. C'est tressaillir à la voix d'un amour qui semble nous reconnaître, comme l'on dit d'un père qu'il reconnaît son fils. Attendre Noël et le fêter enfin, c'est plonger dans l'ironie de Dieu et dans le rire des anges complices. C'est être un pauvre roi devant le roi des pauvres, qui de son doigt d'enfant brave les lois de la physique et fait bouger dans le ciel les étoiles. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
Tout mon être, alors c'est ma chance.
Je vous invite à vous rasseoir.
Je pense que c'est le temps pour les enfants peut-être de rejoindre le sous-sol pour avoir leur part. Et maintenant, nous aurons le groupe du conseil qui va prendre la parole. Et
merci, Michel.
Voilà, on n'est pas nombreux, alors on attend que tous nous rejoignent. Merci. Voilà, aujourd'hui, nous voulions marquer d'une manière particulière la première année du ministère de Claude Bécher parmi nous. Ça fait en fait un peu plus qu'une année, 375 jours. Il a commencé le 1er novembre 2016, n'est-ce pas ? Nous sommes... Pour cet anniversaire, nous avons le plaisir d'avoir quelques invités parmi nous. Je salue le pasteur Kofi de l'église évangélique de Réveil. Merci de nous avoir rejoints. Je salue également Norbert Heiniger, président du conseil de paroisse protestant de Mérin. Merci Norbert. Et je dois excuser le pasteur Maurice Salib ainsi que les prêtres Jean-Philippe Alloin et Olivier Humbert. Ils sont tous de service, évidemment, le dimanche matin. Il y a toujours un risque, quand on invite des pasteurs et des prêtres, qu'ils soient de service dans leur propre communauté, mais ils sont en pensée avec nous. Donc, ça fait un peu plus qu'une année que Claude participe à la vie de notre communauté avec son épouse Elisabeth, que je salue. Claude a été engagé pour un poste pastoral à 50% et il est arrivé chez nous, à Mérin, avec une très riche formation, une maîtrise en théologie à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et ensuite un doctorat en théologie à l'université de Strasbourg. Mais au-delà des connaissances, au-delà de la formation, il a également une très large expérience. Il était au bénéfice d'une très large expérience. Un éventail qui allait d'animateurs socioculturels à pasteurs dans 3 églises évangéliques, pas en même temps, mais au fil du temps, n'est-ce pas ? Une expérience qui allait d'aumônier en EMS à enseignant et directeur des études au centre de formation Mennonite, les communautés dont Elisabeth et Claude sont issus. Vous voyez que cet éventail est très large. Alors, pour marquer cette première année du service de Claude parmi nous, nous voulons vivre un temps de reconnaissance. Une reconnaissance de et une reconnaissance pour. Une reconnaissance pour la bonté de Dieu qui nous a mis ensemble, qui nous a permis de bénéficier de son ministère. Et aussi une reconnaissance de, c'est-à-dire une manière de reconnaître ce qui est. C'est une manière d'apprécier ce qu'il nous apporte, que ce soit à l'un ou l'autre d'entre nous, à chacun d'entre nous, ce qu'il apporte également, reconnaître, apprécier ce qu'il apporte également à notre communauté dans son ensemble. Il y a une dizaine de jours, le conseil a rencontré Claude pour évaluer son travail. Au début de son ministère, nous avions défini quelques axes principaux pour son action. Il y avait l'idée de l'accompagnement des transitions entre le ministère pastoral de Roger et celui qui allait venir. C'est celui de Philippe maintenant, mais on ne le savait pas à l'époque. Hein. Et il y a également l'idée d'accompagner la transition qu'il va y avoir entre ce conseil et le suivant. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'était le suivi pastoral des personnes et l'engagement dans la vie œcuménique que nous vivons ici à Mérin. Et un accent fort également, troisième accent, construire l'Église, la fortifier au travers de l'enseignement. Pour cette évaluation, le Conseil a utilisé un document qui est mis à disposition par notre Fédération d'Église. Et nous voulons ici rendre compte de cette évaluation à la communauté, et partager avec vous l'appréciation très positive, vraiment extrêmement positive, on devrait dire, qui a été faite du ministère de Claude. Nous avons apprécié la qualité de son accompagnement, la qualité de son enseignement, que ce soit lors des prédications. Vous me suivez là ? Vous me suivez. Ou bien lors des études bibliques, des ateliers bibliques qu'il a mis sur pied et conduit déjà 4 reprises. Merci Claude pour ton engagement au service de l'Église.
J'avais envie de dire quelques mots sur l'apport particulier de Claude qui nous vient d'une famille d'Église qui, quelque part, nous ressemble beaucoup et puis, par ailleurs, est à un endroit tout différent sur l'arbre foisonnant de l'histoire de l'Église. Parce que nos assemblées, comme on les appelait autrefois, elles sont nées au début du 19e siècle, donc... Tandis que Claude vient d'une tradition qui s'appelait autrefois anabaptiste, et que maintenant on l'appelle mennonite, qui est née à peu près en même temps que la réforme dont on est en train de célébrer les 500 ans. Et c'était un mouvement qui, à cette époque, voulait se distinguer de cette manière d'être chrétien parce qu'on était de tel pays, on était protestant ici, catholique ailleurs, pour être chrétien par un engagement personnel, et non plus par une appartenance politique. Voilà. Et c'est quelque chose qui a une pertinence particulière aujourd'hui, où on est un peu sorti de l'idée d'une société chrétienne, entre guillemets. Je me souviens d'une chose, parce que c'est un petit peu son point fort. Il y a environ une trentaine d'années, mais peut-être qu'il pourra me donner une date plus précise, je me souviens d'une intervention qu'il a faite. Alors, il a été l'enseignant d'une pastorale de nos assemblées sur le sermon sur la montagne. Tu te souviens quand c'était ?
85.
Ok, donc ça ferait 32 ans, je ne me suis pas trop trompé. Et j'ai toujours souvenir de cette rencontre parce que je crois qu'elle nous a marqués par l'apport particulier qu'il a donné sur le sermon sur la montagne, qu'on lisait d'une manière différente dans nos églises. Une manière de le lire pour vraiment mettre en pratique aujourd'hui. Et d'ailleurs, il nous a apporté quelque chose de ça lors de nos rencontres œcuméniques l'année dernière. C'était lors de la journée spirituelle des 3 communautés. Je pense que quelques-uns d'entre nous étaient parmi nous. Voilà. Alors cet enseignement, c'est un peu mettre l'enseignement et la manière de vivre de Jésus au cœur de notre vie chrétienne. C'est quelque part mettre l'accent sur cette manière de vivre et de servir plus que sur la morale. Et... c'est aussi un engagement fort dans la société, avec un style de vie particulier et avec une manière de témoigner sans complexe, mais aussi sans arrogance. Et pour moi qui reviens d'un mois et demi au Laos, là-bas on est aussi dans un service où on est en plein dans la collaboration entre ce qui est issu de nos assemblées et ce qui est issu des Mennonites. Et je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui est très pertinent dans la situation du Laos aujourd'hui, qui est très différente de la nôtre, mais c'est aussi très pertinent dans notre société dite post-chrétienne d'aujourd'hui et ici à Mérin. Voilà, alors, merci pour cet apport. Je crois qu'il nous enrichit de beaucoup de choses.
Voilà, un petit mot pour Elisabeth. Nous voulons t'associer à ce temps de reconnaissance. Vous avez 4 enfants, 9 petits-enfants, et la petite dernière pourrait prendre place dans la crèche de Noël en plein vent. Elisabeth est engagée auprès des Mennonites suisses, donc à mi-temps. Et puis, on peut dire aussi que depuis que vous êtes arrivée à Genève, vous avez à cœur d'accueillir... les personnes qui sont en quête spirituelle, mais qui ne trouvent pas leur place ou plus leur place dans les églises.
La première fois que j'ai rencontré Claude Bécher, c'était en 1999. J'étais jeune, stagiaire à Bienne, et Claude avait animé un week-end de réflexion dont je ne me souviens pas le thème, mais le personnage, je m'en souviens. Et je m'étais dit à l'époque, je m'en souviens très bien, j'ai même retrouvé ça dans mes notes, que ce serait chouette un jour de pouvoir le revoir et travailler avec lui. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, et ma reconnaissance est grande, et je veux l'exprimer devant l'Assemblée, de pouvoir, depuis 100 jours exactement, collaborer étroitement avec Claude. Claude, tu es vraiment un facilitateur. À bien des égards, tu es une aide très précieuse pour moi. Et j'aimerais simplement souligner également quelque chose que vous avez probablement remarqué, mais dont j'ai le bonheur de bénéficier des fois entre quatre yeux, c'est son sens de l'humour, qui dit quelque chose de la bonté de Dieu aussi, comme sa profondeur, son écoute et sa disponibilité. C'est un bonheur de collaborer avec lui et je bénis Dieu de nous le prêter comme pasteur. Il est aussi le mien de pasteur. Et je demande à Dieu de nous donner de beaux lendemains encore. Merci Claude.
Alors nous allons prier. Merci Seigneur de nous avoir envoyé Claude. Merci pour les dons que tu lui as donnés, qu'il ne garde pas pour lui, mais qu'il met au service de notre Église et de tant d'autres personnes d'horizons divers. Bénis Claude dans son ministère d'enseignement et à travers lui toutes les personnes et communautés qui en bénéficient, qui en bénéficieront encore. Merci aussi pour l'attention qu'il nous manifeste, pour ses merci exprimés très souvent après les séances de conseil. Seigneur, merci aussi pour Elisabeth, pour sa présence et son engagement aussi dans l'Église, aux côtés de Claude, dans ce qu'elle peut apporter. Seigneur, nous te demandons de continuer de mettre tes mains sur Claude, sur Elisabeth, et te demande de les bénir avec toute leur famille. Amen.
Ensemble, Seigneur, nous te disons merci pour le beau ministère auquel tu as appelé Claude et Elisabeth. Merci de les prêter à notre communauté. Merci pour le bien qu'ils nous font. Nous te prions, Seigneur, dans ta bonté, de bien vouloir leur renouveler force, zèle, courage, ténacité. Merci de veiller sur leur santé. Merci de rester aussi près d'eux que tu l'as toujours été jusqu'à ce jour. Nous te bénissons, Seigneur, pour les cadeaux que tu nous fais, parmi lesquels Claude et Elisabeth. Dans le nom de Jésus, nous te prions ensemble. Amen.
à mon tour de vous saluer les uns et les autres, le centre du culte, c'est le Christ, et pas ses sous-fifres. Mais merci, ça me touche, en tout cas votre prière. J'ai du bonheur à travailler avec vous, le conseil, avec vous, l'Église, et avec mon collègue Philippe. C'est l'escalade, hein ? C'est aussi bientôt Noël, donc c'est l'avant. Et c'est aussi bientôt Noël. Donc il faut trouver un texte qui dit tout ça. Et j'ai trouvé quelque chose pour tout le monde, pour moi aussi. Il y a un passage qui donne la parole au Christ, et nous savons que quand il y a un culte et qu'il n'y a pas la parole du Christ, c'est un culte raté. Que la parole du Christ soit parmi vous abondamment connue et aimée. Alors nous donnons la parole au Christ, notamment dans un évangile selon le médecin Luc, chapitre 12. Il y a cette parole du Christ, « Soyez comme des gens qui attendent leur maître ». C'est le sujet de la prédication. Nous sommes dans un temps de l'avant. Avant vient pas de attente, vient de venue. Aventus, la venue. Et la question c'est, qui est-ce qu'on attend ? J'ai bien peur qu'on se fourvoie tous en pensant que c'est le papa gâteux gâteau pour tous et qui passe tout. Si c'est la venue, ça rejoint un thème extraordinairement présent dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la venue de Dieu. Autrement dit, ceux qui connaissent un peu la Bible, c'est l'expression « le jour de l'Éternel ». C'est le jour du grand ménage. C'est le jour de la remise des pendules à l'heure. C'est le jour où ceux qui vont pas bien parce qu'ils souffrent de l'injustice se réjouissent parce qu'enfin, ils auront de nouveau de la dignité. Mais c'est en même temps un jour de malheur pour ceux qui collaborent avec les systèmes d'injustice, qui sont heureux de l'état où ça en est, puisqu'ils en profitent. Vous arrivez à comprendre ? Donc le jour de l'Éternel est lumière et ténèbres, mais pas pour les mêmes personnes. Vous comprenez ça ? Oui. Je m'assure juste que vous soyez là. Un temps de l'avant. Un temps de l'avant, c'est un temps aussi dans nos maisons. Je ne sais pas ce que vous avez fait chez vous, mais chez nous, on a un petit peu mis des bougies, on a mis à la sonnette quelque chose qui ressemble à la vie, nous avons un brin de sapin, nous avons, tradition alsacienne oblige, ma femme aussi, préparé des brétalas. Ça ne vous dit rien, hein ? C'est des petits gâteaux de Noël de toutes sortes. Donc, dans la tradition, on installe dans les maisons des signes avant-coureurs d'eux. Nous aussi, on a des signes avant-coureurs et j'admire ceux qui ont ces dons. Il y a toutes sortes de choses. Deuxième dimanche de l'Avent, c'est donc un temps où, dans nos églises, il est bon de nous préparer et de faire les ajustements de cœur pour que, quand il vient, nous ne soyons pas de ceux qui disent « Oh, mauvaise nouvelle !» Mais qu'on dise « Oh, bonne nouvelle. » La couronne, signe de victoire et de royauté, il y a quatre bougies, c'est la tradition, c'est pas dans l'évangile, mais quatre, c'est les quatre points de l'horizon, c'est le chiffre de la totalité, c'est les quatre dimanches avant la venue du roi, bizarre venue du roi. L'avant, c'est une préparation de la venue de Dieu. Il vient pour juger la terre. Il y en a qui, au mot de jugement, sont catastrophés. Et il y en a qui disent, « Ah ben, je me réjouis quand tout sera de nouveau bien. » Parce que c'est le roi qui vient. Donc, nous préparer. Prendre conscience de nos vrais manques en même temps. Ça nous poussera à Jésus, et c'est très bien. Et attendre la venue de Dieu. Je ne sais pas comment vous réagissez à l'idée de « il va venir ». Il y en a, ils ne savent plus quoi penser parce qu'ils ne savent pas ce que ce roi va introduire. Du coup, il dit le plus tard possible. D'autres disent, Seigneur, viens. Parce qu'il souffre avec ce monde là où Dieu lui-même souffre. Alors, il y a deux convictions fortes du Dieu d'Israël. Un, Dieu créateur est venu. Et ce Dieu-là, non seulement il aime venir, mais il intervient. Vous connaissez, c'est intervient. Souvent on dit, le Christ, il vient, je ne sais pas trop tant, mais il tarde, et puis je ne sais plus quand. Et on chante. Mais en même temps, le Christ, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'Apocalypse, il intervient dans les situations des églises du premier siècle qui souffraient. Et je vis le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le titre du roi de Dieu. Le roi de Dieu, il se promène au milieu des églises dans le début de l'Apocalypse. Eh bien, pour moi, tous les cultes sont des passages du Christ, où on entend sa parole, où on goûte à son esprit, et quelque chose anticipe de ce qu'il va introduire quand il viendra en gloire, c'est-à-dire une création restaurée, une création qui est guérie. Dieu est intervenu, la création, mais aussi le déluge, mais aussi l'exode, et aussi l'exil, et le retour, et il est venu en Christ, et il intervient encore. Il est moins absent qu'on le croit. Et peut-être nous allons le croiser d'une drôle de manière, comme il nous l'a enseigné dans l'Évangile. J'ai été nu, j'ai été prisonnier. Donc c'est une bonne nouvelle pour les humbles qui sont conscients de leur propre dureté, de leur propre manque, mais aussi de leur propre service de ce Dieu qui vient, et une mauvaise pour les corrompus, les profiteurs du système, qui disent de toute façon, tant que je me sauve moi-même, ce sera bien, mais Dieu sait ce qui arrivera si Dieu nous sauve. Il interviendra encore, ce sont les jours de l'Éternel, le royaume de Dieu vient lorsque Dieu intervient. En somme, Dieu interfère. L'Avent est un temps de préparation de nos cœurs, où l'arrogance, ma suffisance, mes duretés doivent se préparer à la venue du Seigneur. Et ce Seigneur-là, il précède le temps du jugement, il nous dit, moi je t'aime, je te connais bien, mieux que toi-même, je t'accueille, viens à mon service. Alors nous avons parler de Luc, voici le texte de Luc. Attention, c'est un rebondissement. Jésus nous apprend la bonne manière d'attendre la venue. Rester en tenue de travail, ça commence comme ça, pardon pour la traduction, mais ça veut dire saigner vos reins. Bon, ça veut dire quoi? Que dans le temps qu'on avait des jets là-bas, pour courir, il fallait mettre une ceinture, d'accord? Mobilisation, c'est pour ça, traduction, rester en tenue de travail. Vous arrivez à comprendre? Tout expliqué. Gardez vos lampes allumées, ça veut dire quoi? Ça, pour un juif, c'est évident, c'est l'exode. Parce que c'est la nuit qu'on part, c'est la nuit qu'on mange, c'est debout qu'on mange, c'est avec des sandales, c'est avec un bâton. Ça va partir, loin de l'esclavage, le Seigneur va venir. Restez vos saints en tenue de travail. Ensuite, soyez comme des serviteurs. Frères et sœurs, vous qui êtes baptisés, serviteurs, c'est nous tous. Servantes de Dieu, serviteurs de Dieu. C'est à ça qu'on est appelé, à le louer, à le manifester, à l'exprimer dans nos vies. Alors vous avez vu, mes commentaires, je les mets, mais le texte, vous l'avez là affiché. Vous faites la différence. Hein. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas le seul maître à bord. Au-dessus de moi, il y a quelqu'un à qui je suis redevable. C'est le proprio, le propriétaire de la ferme dans laquelle je travaille et où je suis un serviteur parmi les servantes, où il y a quantité de choses à faire parce qu'en attendant, il nous a délégué un boulot. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur propriétaire parti pour une noce. Alors il va revenir, je ne sais pas trop quand. Quand vous revenez des noces, vous revenez à quelle heure, vous? Ça dépend. Quelle noce, d'accord? Il y en a 3 heures du matin, non? Non? Si, ouais. même 5. Bon, lui, on ne sait pas. Il est allé à la noce, il ne découche pas, il est parti à la noce dès qu'il arrive. Il frappe à la porte, je vous dis, c'est une grande, grande propriété, d'accord ? C'est dans la campagne comme ça existe, et les serviteurs, ils ronflent pas. Ils filent, ils prennent le poteau qui barre la porte. Enfin, je sais que c'est vieux ce truc, machin, vous faites plus comme ça, n'est-ce pas ? Enfin, ils ôtent la poutre parce qu'ils sont là, ils l'attendent. Dès qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux, ses serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de pas dormir. Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, c'est lui qui se mettra en tenue de travail. Vous avez déjà vu ça, vous ? Le maître se met en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Votre boss, il fait comme ça ? Le mien, oui. Le nôtre, oui. C'est quand même incroyable, cette histoire, non ? Seulement, ça ne se termine pas avec un happy end, là. Peu importe qu'il entre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ses serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Jusqu'à là, on est dans l'image, d'accord ? Je ne peux pas terminer ce culte en disant « Les amis, soyez vigilants, allez en paix. » Tout le monde va partir en croyant qu'il a compris, mais on n'a rien compris. Les uns vont prendre le journal le matin ou peu importe le titre et ils vont essayer de voir quand est-ce que le Christ va venir pour se préparer à la dernière minute. C'est pas ça. Peu importe quand il vient, qu'il tarde ou pas, peu importe, toi, sois vigilant. Alors, on continue. D'abord, il y a deux attitudes, vous avez vu. Il y a ce qu'on a déjà vu, versets 35 à 38. L'absence du maître se fait sentir. Pour les deux catégories, le propriétaire viendra sans s'annoncer. Alors n'allez pas me dire, il y a des chrétiens qui savent quand il vient et les autres qui ne savent pas quand il vient. Heureux les chrétiens qui savent quand il vient. Non ! Dans les deux catégories, ne savent pas. Dans le cadre, c'est deux attitudes possibles. L'un, ceux qui l'attendent et à son retour ne le font pas attendre pour lui ouvrir la grande porte. Et l'autre, ceux qui ne comptent au fond plus que sur eux-mêmes, tellement ils sont dubitatifs sur le fait qu'il va venir, repliés sur eux-mêmes, repliés sur leurs inquiétudes. Mais aussi, vous l'avez vu, vous allez le voir dans le texte qu'on va lire, bonjour, bienvenue. Ceux qui maltraitent les autres parce qu'ils ont arrêté d'attendre ce maître-là, ils sont devenus seuls maîtres à bord. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. Il y a une petite suite, là, qui me rappelle l'escalade. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur, duc de Savoie, va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous êtes d'accord ? Le maître, il défend ses biens, non ? Eh bien, cette délégation vient à nous tous. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le roi de Dieu viendra. Jusqu'à là, rien de très compliqué. Moi, ce qui me frappe, c'est cette parole du Christ. Quand je viens, entre dans la joie de ton maître. Ça me rappelle Matthieu 25 aussi. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors maintenant, c'est là qu'on va introduire quelque chose sur les ministères. D'accord ? C'est la suite. Je le lis. Jésus, est-ce que tu parles pour nous ou tu parles pour les pasteurs ? Est-ce que tu parles pour tout le monde ou tous les gens de Mérin ou tous les chrétiens de Mérin ou pour nous ? Ça, c'est typique de la question de l'apôtre Pierre. Pierre, sans doute poussé devant par les autres apôtres, Pierre lui demanda, « Seigneur, cette comparaison que tu viens de faire, qu'on vient de lire, s'applique-t-elle seulement à nous ou bien concerne-t-il tout le monde ?» Typique, hein ? C'est aimé. Autrement dit, nous, on te suit. Est-ce que ça nous concerne aussi, cette vigilance ? Maintenant, on parle des ministères, puisqu'on parle aussi des ministères. On a parlé des serviteurs, nous le sommes tous ici. Maintenant, regardez la suite. Le Seigneur répondit, quel est le gérant fidèle ? Donc, ce n'est pas seulement un serviteur, n'importe lequel, c'est le gérant des serviteurs. C'est pour ça qu'on parle des ministères, des pasteurs. Ou des apôtres, ou peu importe, du conseil. Le Seigneur répondit, quel est le gérant fidèle? Le gérant, c'est celui qui gère. Sensé, fidèle et sensé, à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel. Vous y êtes? Quel est le rôle du gérant? Veiller sur le personnel, sur les serviteurs, parce qu'il est un serviteur. Pour qu'il donne à chacun, au moment adéquat, voulu, la ration de blé qui lui revient. Quel est le rôle du gérant? C'est un économe, mais c'est aussi un gestionnaire du personnel. Les ministères, c'est un peu ça. Ils donnent une ration de blé au moment voulu sans s'accaparer les rations des autres. Ça, ça s'appelle corruption. Ou ça s'appelle... Paradise Island. C'est pas marqué. Je reviens. La ration de blé qui lui revient. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vous avez vu, veiller veut dire se conformer au Christ. Veiller, ça veut dire prendre soin des autres. Veiller, ça ne veut pas dire savoir quand il vient, à quelle heure il est à l'horloge. D'accord? Veiller, c'est pas savoir quand, c'est, ça veut dire être n'importe quel moment, quand il vient, en train d'aimer, en train d'édifier, en train de considérer le prochain dans la dignité. Mais ça, vous saviez déjà. Ça fait bon de réviser. Heureux ce serviteur. Ça, c'est nous, hein? Pardon, je suis un peu égoïste, là. Heureux ce serviteur particulier, qui est un gérant, que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera encore du boulot. L'administration de tout ce qu'il possède. Allez, je vais vous dire comment je lis ça. Nos vies, toutes nos vies, chacune de nos vies, et jusqu'au bout, jusqu'au bord, et depuis le début, sont des écoles de cadres d'un monde qui vient où il fait bon vivre. Vous arrivez à comprendre? L'école de cadres de service d'un monde qui vient, que le Christ introduira et où il fait bon vivre pour tout le monde. Confiance du propriétaire. Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'appelles ton enfant, mais tu me donnes la dignité d'enfant, de fils et de fille de Dieu. Tu me donnes une vocation particulière qui est unique. Chacun de nous a une vocation particulière. Veiller sur le personnel, donner à chacun sa subsistance. C'est quoi la subsistance? C'est la bonne parole du Christ au moment où il faut pour qu'on soit encouragé et édifié. C'est donner de la dignité, c'est l'encouragement à son service. Et d'une manière fidèle. Quel est donc le serviteur, le gérant fidèle et sage, dit le texte. Fidèle et sage, c'est pas un diplôme universitaire. C'est un cœur qui est transformé par le Seigneur pour en faire bénéficier la relation avec le prochain, tous les prochains. C'est plus que des bonnes intentions. C'est plus que des actes. Ce sont des actes qui permettent à la maisonnée de fonctionner selon le propriétaire et jusqu'à son retour. Alors, déclarer heureux plus un service confié, c'est l'école de cadre. C'est ce que nous venons de dire. Donc, qu'on soit Pierre, l'apôtre ou un pasteur, qu'on soit au conseil, mais finalement, nous sommes tous un peu les gestionnaires de ceux qui sont autour de nous, non ? Vous n'êtes pas un peu gestionnaire des voisins, des relations, de la famille? Si. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. On a dit veiller. Il y en a un seul qui a veillé jusqu'au bout et ce n'était pas moi. Et ce n'était pas Pierre. Pierre a largué celui qui a veillé jusqu'au bout. C'est le Christ. Alors quoi? Tout ça, c'est juste pour dire que s'il n'y a pas l'humilité de reconnaître nos duretés, on ne peut pas vivre ce programme, s'il n'y a pas l'Esprit Saint qui nous aide, s'il n'y a pas le pardon et la grâce. Un chemin de modestie et d'humilité confiante. Alors je vous donne la dernière partie de l'Évangile, d'accord ? Et attention, ça termine bientôt. Mais si ce serviteur se dit « Mon maître n'est pas prêt de venir », c'est toujours le gestionnaire, hein, le gérant. Si selon l'évangile de Luc, mon maître n'est pas prêt de venir, et s'il se met à maltraiter les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, avec les rations des autres, bien sûr, d'accord ? Vous y êtes ? Je vous ai dit, ça a un rapport avec les Paradise Papers. Je vous ai dit. Son maître arrivera un jour où il ne s'y attend pas. Ça, ce n'est pas un problème, c'est vrai pour tout le monde. À une heure qu'il ne connaît pas, alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les esclaves infidèles. Le texte dit il le coupera en deux. C'est les Assyriens qui faisaient ça. Quand il y avait un ouvrier, un esclave qui était désobéissant, c'était leur manière de dire plus personne continue comme ça. Alors, vous voulez dire, le Seigneur, il ne fait pas ça. La parabole dit qu'on sera jugé plus sévèrement, nous qui enseignons la parole de Dieu. C'est juste ? C'est dans l'épître de Jacques. Autrement dit, on ne sera pas jugé de la même manière, vous et nous. Vous, vous avez un mandat. Fils et filles de Dieu, reflet du Christ, là où vous êtes, avec les charismes et les situations qui sont les vôtres. Mais il y a des gérants qui, quand ils ne font pas selon le Christ, ils maltraitent les autres et pour Dieu, c'est insupportable, c'est inacceptable. Alors vous allez dire, ils n'ont qu'à se repentir. Ben oui, c'est pour ça que la parabole est là. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais n'aura rien préparé et qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni, c'est ce qu'on vient de dire. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas dans la foi, ceux qui ne savent pas, et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. C'est vrai parmi les hommes, c'est encore plus vrai pour le Seigneur, parce qu'il donne et il attend du fruit. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Alors, je ne sais pas si vous n'auriez pas arrêté votre prédication en verset 46, vous auriez mis le 47 avec ? C'est ma tentation. Alors, rentre dans la joie de ton maître, il y a aussi cette gravure d'Eugène Burnand qui me frappe. Mais c'est le parabole des noces. Il y en a un qui ne s'est pas préparé. Il est venu avec ses vêtements sales. Il est rentré. On ne sait pas par où il est rentré d'ailleurs. Parce qu'à l'entrée des noces juives, on donne un vêtement. Ici, qu'est-ce qu'il fait ici ? Que le Seigneur nous trouve avec un habit préparé et heureux et qui attend la venue du roi de Dieu. Donc, je résume. À tous, Dieu donne un service. À certains, il confie une charge pour les autres. La veille, l'avant, sera récompensée. Elle est avant tout une spiritualité, une action d'annonce de la parole pour nous. J'aimerais vous dire merci de prier pour nous, pour que la parole du Christ, nous en soyons les serviteurs, dans la durée. Et pour nous, nous nous engageons à prendre soin de vous, peuple du Christ, pour que le Maître bien-aimé nous rejoigne, nous accueille, nous pardonne, nous renouvelle et nous dirige jusqu'à ce qu'il vienne. Mes enfants, disait sans doute le vieil apôtre Jean, demeurez attachés au Christ. Attachés, c'est assez étroit, hein ? Ça va ? Vous qui avez été baptisés au nom du Père, du Fils et de Jésus-Christ, soyez renouvelés aujourd'hui. Que ce temps de l'Avent vous rejoigne et nous rejoigne tous pour qu'au moment où il paraîtra, pour certains, c'est à minuit, peut-être au milieu de la vie, humainement prévisible. Pour certains, c'est à 3 heures du matin. Ça, tu ne le sais pas. Mais pour qu'au moment où ils viennent, ils ne soient trouvés pour introduire le monde où la justice habite comme étant dans l'apprentissage de l'école de cadre, de l'amour, du respect, de l'annonce de la bonne nouvelle, de la réconciliation. Afin qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance, à cause de la grâce du Christ. Moi, sans la grâce de Christ, je ne peux pas tenir, ce n'est pas possible. Mais puisqu'il me dit, toi, je t'appelle, tu es mon fils, ma fille, tu es mon fils, je veux bien, Seigneur, avec ton aide. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux, loin de lui, au moment où il passe. Amen. Est-ce que j'ai l'autorisation de prier le Notre Père avec mes frères et mes sœurs? Je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour nous asseoir, Dieu fait alliance avec nous.
Nous allons garder les paroles qui nous ont été dites dans nos cœurs et avant de prendre le repas de la Sainte Cène, nous allons chanter un chant, le 221. nous arrivons au moment, au ce temps de la Sainte Cène. Et si j'ai parlé au début du culte que Dieu a fait alliance avec nous, eh bien, je lirai là dans l'hébreu que Dieu nous dit « Je ferai une alliance nouvelle ». Oui, nous pouvons compter sur cette alliance que Dieu nous propose parce que Dieu a fait en Jésus-Christ, il nous a donné son Fils pour faire cette alliance nouvelle. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Oui, c'est avec la confiance que Dieu nous a donné son esprit. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous aide à vivre vraiment en nouveauté de vie et dans cette attente aussi de ce royaume futur.
Bienvenue au repas de l'Exode nouveau. L'Évangile selon Luc au chapitre 22 dit « Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table pour célébrer la Pâque, et les apôtres avec lui. Il reçut une coupe et après avoir rendu grâce, il dit « Prenez-la et partagez entre vous. Car je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce au Seigneur, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps, dit Jésus, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Rendons grâce au Seigneur. Nous sommes le peuple d'un exode que toi tu diriges, que toi tu inspires, et c'est toi qui le permets. Ce repas puisse-t-il pour chacun d'entre nous être la force pour notre marche nouvelle. Merci Seigneur pour ton sang versé, pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton corps donné, pour l'inspiration de nos actions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait, parce que tu es l'agneau de Dieu qui rend possible le pardon des péchés du monde. Merci pour le feu vert de l'Exode. Inspire, Seigneur, notre amour en retour. Au nom de Jésus. Amen.
Nous sommes tous les bienvenus à ce repas. Merci au conseil qui vous distribuera ces éléments, le pain et le vin. Les gobelets, donc roses, il y a du jus de raisin, autrement c'est du vin. Et ceux qui désirent prendre la coupe, eh bien qu'ils fassent signe, nous passerons vers eux. Seigneur, de ce que par ton esprit tu nous as rendu capables de comprendre la signification de ce repas que nous venons de prendre. Oui, Seigneur, merci de ce que cette nouvelle alliance, nous pouvons la vivre dans la joie et dans la paix. Amen. Voilà, comme le culte va se prolonger par un temps après de festivités, si l'on veut dire, et puis que voilà, l'heure avance, alors je passerai maintenant le temps pour les annonces, et pendant ces temps d'annonces, eh bien, nous recueillerons votre offrande. Alors.
Voilà, donc tout à l'heure, un repas communautaire pour marquer cette première année de ministère de Claude Bécher. Il y aura des instructions à la fin pour vous expliquer comment on va déplacer les chaises et installer la salle, puisque le repas se déroule ici. 15-16 décembre, c'est Noël en plein vent à 19h, le vendredi et le samedi. Et cet après-midi, après le repas, une répétition avec du public, et le public, c'est nous. Johan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet, peut-être ?
Oui, merci. Attention. Donc, on a prévu à 14h cet après-midi. Je sais que les repas communautaires ont tendance des fois à se prolonger. Pour les acteurs, ça serait bien d'être un quart d'heure avant, juste pour une sorte de petit débriefing. Aujourd'hui, il n'y aura pas de technique, parce qu'il n'y a pas besoin de lumière. Le dimanche, on va éviter les micros. Mais par contre, pour les techniciens, ça serait bien d'être présent aussi pour qu'on puisse voir comment ça va bouger avec la foule, parce que ça va un petit peu changer le comportement et puis les mouvements. Donc ça, c'est important d'être un quart d'heure avant. On est aussi dans des conditions qui vont être très agréables, puisqu'on a de la neige, on a du froid. Et je ne sais pas si ce sera de la pluie cet après-midi, mais on verra. Donc on sera vraiment dans de bonnes conditions et on se réjouit. À tout à l'heure.
Voilà, dimanche 17 décembre, on aura un culte de Noël en famille, un culte particulier pour cette occasion à 10h ici. Et le camp de ski du groupe de jeunes, cet été c'est chrétien tout terrain, des fois que vous ne le sachiez pas. Donc vous pouvez soutenir le camp en offrant des denrées alimentaires. Il y a un panneau à l'extérieur avec une liste, des tickets, des coupons à prendre. Respectez la liste, ramenez le papier en même temps que les denrées. Voilà. Et puis le délai, 22 décembre au plus tard. Merci d'avance. Et je relève encore l'action de Noël de l'AFRE. L'AFRE est notre fédération. J'ai ici des papiers, des papillons qui sont avec le bulletin de versement. Il y a deux actions qui sont retenues cette année par la fédération. Le premier, c'est soutenir une radio en Roumanie, Radio Harmonia. C'est une radio qui est soutenue depuis 18 ans et on veut poursuivre cet engagement dans ce pays au travers de cette action de Noël. Et l'autre action proposée, c'est favoriser l'accès aux soins des populations les plus démunies au Bangladesh au travers d'une clinique mobile. Voilà, vous avez plus de détails sur ce papillon, sur ce dépliant, avec tout ce que vous pouvez désirer comme information. Je les laisserai à l'extérieur. Et puis, on vous rappelle, le nouveau site internet est en ligne. Vous pouvez aller le consulter, faire vos commentaires, peut-être. Et dès janvier 2018, eh bien, il y aura une nouvelle série d'ateliers bibliques, pardon, je m'en couble, notre culte dans tous ses états. Et vous voyez qu'on est tout à fait dans le... si vous voyez le dessin d'Odersen, on est bien dans le train de ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà, et juste après le culte, c'est le mouvement. Alors, je vous explique. C'est en trois mouvements, n'est-ce pas ?
la travée de gauche et la travée à ma gauche, à votre droite, et la travée de droite, à ma droite, à votre gauche. Donc les deux travées latérales replient leurs chaises à l'extérieur. La travée centrale replie les chaises et elles seront déposées au fond à côté du meuble sono. D'accord ? Droite, gauche, au fond. Pardon ? Alors vous pouvez les mettre on les transporte avec le chariot par pile de 12, peut-être faites des piles de 4 et puis après on se débrouillera pour les rassembler. Voilà. Ensuite interviendront les gens qui disposeront les tables et puis il nous faudra un coup de main pour remettre les chaises parce qu'on compte manger assis. Vous aussi peut-être. Voilà, merci.
Oui, merci Seigneur de ce que tu veux que nous participions aussi à ton œuvre dans ce monde et nous voulons le faire avec joie en t'offrant cette offrande. Amen.
Nous levons ensemble pour demander la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous maintenant et jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Bon dimanche, chacun, chacune.